Bonsoir, comment allez-vous? Savez-vous, mes enfants, ce qu'est une carte routière? Il s'agit d'une espèce de nappe en papier pliée en deux, puis en accordéon, sur laquelle est dessiné, à plus ou moins grande échelle, le réseau routier d'un territoire. Jusqu'à il y a peu, il ne serait venu à l'idée de personne de partir en voyage sans carte. Même dans les trains, chaque wagon affichait sa carte de France. Les hommes disaient que les femmes ne savaient pas lire une carte. Comme toutes les généralités, celle-ci n'a pas de sens. C'est le cas de le dire. La carte donnait un sens au voyage. Les plus précautionneux la dépliaient en grand avant de partir, ce qui était une affaire, puis repéraient le trajet. Notre mémoire photographiait l'ensemble. Nous savions où nous allions. Même s'il y avait des hésitations, des demi-tours, des demandes de renseignements aux autochtones et parfois des demandes de divorce aux copilotes. Grâce à la carte, le voyage était une révélation. Nous allions voir en vrai le fantasme provoqué par un dessin codé sur un papier. Nous étions comme un explorateur à la poursuite de la source du Nil. Nous allions avec nos pieds ou nos roues fouler le sol d'un lieu que la carte nous faisait déjà craindre ou aimer. À l'arrivée, on repliait la carte avec plus ou moins de soin jusqu'au prochain voyage.
Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir comment marche le GPS que maman a dans la voiture. Merci, au revoir.
Merci Philippe pour cette question. Comment marche le GPS? C'est un grand mystère. Christophe Vigny, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. C'est pas vraiment votre métier le GPS, mais quand même.
Eh bien, en fait, si. C'est exactement mon métier. Je l'utilise tous les jours pour mesurer la forme et la déformation de la Terre.
D'accord.
Pour comprendre comment la Terre fonctionne, une des choses qu'on fait, c'est de regarder comment elle se déforme. Et au-delà de regarder, de mesurer ça et de le mesurer de manière très précise. Et donc, c'est ça le GPS.
Bon.
Le GPS, ça veut dire Global Positioning System. C'est un système américain. C'est un système de positionnement par satellite qui permet de mesurer la position de l'endroit où on se trouve avec une très grande précision. Alors, des systèmes de positionnement par satellite, le premier et le plus connu, c'est le GPS. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a un système équivalent russe qui s'appelle GLONASS, un système équivalent européen qui s'appelle Galileo, un système chinois, Baidu, qui va faire la même chose. Alors, comment ça marche, tous ces systèmes de positionnement par satellite? Il y a des constellations de satellites qui orbitent autour de la Terre et qui portent des émetteurs qui envoient un signal, une onde électromagnétique, sur laquelle est crypté ou codé un message qui va être reçu par un récepteur. Le récepteur GPS que ta maman, Philippe, a dans sa voiture, mais qu'on a tous maintenant un peu partout. Les gens qui font de la randonnée ont un petit GPS à la main. Il y en a dans les avions, les bateaux, les voitures,
les
téléphones, partout. Et pour nous, les chercheurs, on en utilise aussi. Simplement, les nôtres, ils sont plus précis. Ceux qui sont utilisés par tout le monde, ils sont précis à quelques mètres près. Et nous, on va utiliser ceux qui sont précis à quelques millimètres près pour mesurer la tectonique des plaques. Alors, comment ça marche? Ça envoie ce signal codé qui permet de mesurer la distance entre le satellite et le récepteur. Le satellite envoie le signal et il dit « Je suis là, j'envoie le signal maintenant, top départ ». Et quand on le reçoit, on mesure le temps, on en déduit combien de temps le signal a mis pour voyager du satellite à nous. Comme il voyage à la vitesse d'une onde électromagnétique, 300 000 km par seconde, on en déduit la distance entre le satellite et le récepteur. Et comme on sait où se trouve le satellite, parce qu'on peut le calculer à partir de son orbite, on peut en déduire, on sait où est le satellite, on connaît la distance entre le satellite et nous, on peut déduire où on se trouve à la surface de la Terre, si on a des mesures sur au moins 3 satellites simultanément.
Ah oui, il faut vérifier.
Donc voilà, il y a des constellations de satellites qui font qu'on a toujours au-dessus de notre tête au moins 3 satellites, tout le temps, partout à la surface de la Terre, qui envoient tout le temps ces messages, qu'on décrypte tout le temps, et qui nous permettent de mesurer ces distances, qui nous permettent de calculer notre position.
Magnifique, magnifique. Ce soir, dans les petits bateaux, Pauline a demandé s'il restait des bisons en Amérique du Nord. C'est ce dont nous parlions il y a un instant avec Frédéric Barrère, de ces bisons. Charlie a demandé pourquoi les yeux ne changeaient pas de taille quand on grandissait. Et Justine, ce que mangeaient les Égyptiens au temps des pharaons. Ces questions ont été posées sur le répondeur des petits bateaux qui reviendra quand la Covid sera partie. Odon Vallée, vous le connaissez bien au petit bateau, est docteur en sciences des religions. Je vous cite un de ses livres en rapport avec la question qui va suivre. « Dieu et les religions, on sent un question-réponse » édité chez Albin Michel.
Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 8 ans, je voudrais savoir si Jésus avait des frères et sœurs. Merci, au revoir.
Bonjour Céline, c'est drôle que tu me poses cette question alors que tu t'appelles Céline, un très joli prénom, parce qu'il y a une magnifique chanson de Hugues Aufray qui s'appelle précisément Céline. Et Céline, dans cette chanson, c'est la sœur, la grande sœur, la bonne sœur, celle qui a élevé ses petits frères. Alors, est-ce que Jésus a élevé ses petits frères? Je ne sais pas. Est-ce qu'il en avait des frères? Nous n'en savons rien. Il y a deux possibilités. Soit Jésus était un fils unique, soit il était un fils aîné, ce qu'on appelait le premier-né. Et à ce moment-là, il aurait pu avoir des frères et des sœurs. S'il n'avait pas de frères et des sœurs, il avait au moins des cousins et des cousines. Mais franchement, on n'a pas ce qu'on appelle l'état civil de Jésus, c'est-à-dire toi, si tu as des frères et des sœurs, c'est simple, on va à la mairie, et puis on voit bien si tu as des frères ou des sœurs, parce que ta naissance a été enregistrée. Bon, ben, celle de Jésus, on n'a pas retrouvé d'acte de naissance de Jésus, on ne sait pas s'il avait des frères et des sœurs. C'est probable parce qu'à l'époque, les familles étaient nombreuses, mais on n'en sait rien. Puis peut-être il en avait qui sont morts, parce qu'à l'époque, les enfants mouraient souvent de maladies en bas âge. Donc honnêtement, nous ne savons pas, simplement le seul dont on parle dans l'Évangile, c'est Jésus. Alors si Jésus n'avait pas de frères et sœurs, on peut dire que tous les chrétiens sont les frères et les sœurs de Jésus. Par exemple, dans le Nouveau Testament qui raconte la mission de Jésus, on lit souvent « frère », c'est-à-dire qu'on s'adresse aux hommes en tant que frères ou sœurs. Tous les chrétiens qui suivent la vie de Jésus, qui suivent son message, sont appelés les frères et les sœurs de Jésus. Mais c'est des frères et des sœurs spirituels, ils ne sont pas nés du même père et de la même mère.
Ah ben c'est intéressant ce que vous dites, parce que donc le lien de la pensée a la même appellation que le lien du sang.
Bien sûr, par exemple, les religieuses, on les appelle ma sœur, certains religieux, mon frère, des prêtres, on dit mon père, c'est des pères spirituels. Chacun a son père selon la chair, c'est-à-dire celui dont il est né. Mais en même temps, nous avons une famille spirituelle et pour les chrétiens, c'est la famille de Jésus.
Quand on écoute Odon Vallée, on a un petit peu l'impression que frère est une espèce de titre d'affection. Et pourtant, quand on lit la Bible, des histoires difficiles entre frères, il y en a. Il y a Joseph et ses frères, ils nous ont quand même collé le petit Joseph au fond d'un puits. Bon, il était un peu vantard, il a gassé tout le monde, mais enfin, est-ce une raison quand même pour le mettre au fond d'un puits et puis finalement le vendre comme esclave? C'est un petit peu excessif. Et puis tout simplement, les deux frères qui vous viennent peut-être à l'esprit immédiatement, Cain et Abel. Donc, frère n'est pas forcément, entre guillemets, un titre d'affection. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn.
Just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn.
C'était Billie Eilish, la jeune américaine qui aura 19 ans vendredi prochain. Et oui, le 18 décembre.
Les petits bateaux sur France Inter.
Nous parlons beaucoup de bonnes choses en ce moment à l'approche de Noël. Nous faisons des courses de mets délicieux, enfin en principe. Mais qu'est-ce que ça s'est toujours passé comme ça? Comment étaient nos rapports à la nourriture pour ceux qui avaient la chance d'en avoir à profusion autrefois?
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 7 ans, je voudrais savoir ce que mangeaient les Égyptiens au temps des pharaons. Merci.
Bonsoir Justine. Florence Marie-Méjol, vous avez écrit « Dieux et rites de l'Égypte antique chez la Martinière ». Vous êtes docteur en égyptologie. Savez-vous ce que mangeaient les Égyptiens ?
Oui, on en a une assez bonne idée puisque la nourriture était la grande obsession des Égyptiens pour des raisons qui sont liées à la crue du Nil, hein, qui n'était pas régulière, donc qui certaines années étaient tout à fait abondantes et qui permettaient d'avoir d'excellentes récoltes. Et malheureusement, il y avait aussi des années qui étaient des années de famine. Mais ces préoccupations, on les retrouve aussi en ce qui concerne l'au-delà. Et donc, il y a beaucoup de représentations dans les tombes des Égyptiens, dans leurs recueils funéraires, par exemple, comme le livre des morts, qui est une sorte de guide de l'au-delà. Et dans ce recueil, il y a beaucoup de formules qui évoquent la nourriture. Puisque la grande peur du défunt, c'est de mourir de faim et de soif dans l'au-delà. Donc, les Égyptiens vont décrire à longueur de parois de tombeaux ce qu'ils mangent et ce qu'ils espèrent continuer à manger et à boire dans l'au-delà. Et en même temps, ils vont doubler ces représentations qui sont sur les murs de leur tombe par des petites figurines qui vont préparer la nourriture. On a des modèles de meunières qui sont en train de moudre le grain et de préparer la farine. On a des modèles de boulangerie, hein, des petites maquettes. On a des modèles aussi pour les bouchers. Ces représentations doublent aussi les victuailles qui sont apportées dans la chapelle de la tombe par la famille ou par les prêtres, hein, dans le cas de personnages très importants ou dans le cas du pharaon, là, il s'agit de ces temples funéraires. Bon, on sait bien qu'au bout d'un certain temps, les vivants finiront par soit eux-mêmes disparaître ou oublier d'apporter les offrandes qui permettent donc aux morts de vivre. Donc les Égyptiens ont conçu toutes ces images pour prendre le relais magiquement. Et donc, en fait, les Égyptiens concevaient que c'était l'énergie vitale du mort qui allait consommer l'énergie vitale qui était contenue dans les offrandes. Ce qui expliquait que quand on apportait, par exemple, un plat délicieux au mort dans sa tombe, eh bien, le plat restait intact. Ce qui était consommé, c'était l'énergie. Alors, ce que mangeaient après les Égyptiens, ce qui est décrit, par exemple, des poireaux, des laitues romaines, des courgettes, des melons. On avait aussi des fruits comme le raisin, comme les figues. En ce qui concerne la viande, les Égyptiens mangeaient du cochon. Alors ça, c'était une viande qui n'est pas représentée, par contre, dans les tombes. Mais on a retrouvé les ossements dans les tas d'ordures, en fait, qui se retrouvaient à l'extérieur de certains villages, hein, qui ont été fouillés par les archéologues. La viande de bœuf, par exemple, ça, c'est une viande de luxe, hein, qui va être plutôt réservée à la table du pharaon, des très grands personnages, et à la table des dieux. La viande est représentée idéalement dans les tombeaux, mais ce qui ne veut pas dire, hein, donc c'était une nourriture quotidienne pour les Égyptiens. Et sinon, on mangeait aussi du mouton. Il y avait les laitages, hein, et les fromages certainement qui étaient tirés là, des vaches, des chèvres. On fabriquait aussi, bien sûr, la base de la nourriture, là, c'était le pain, hein, puisque l'Égypte produisait le blé en abondance lorsque la crue du Nil était tout à fait satisfaisante, et des gâteaux qui étaient plutôt édulcorés à partir de miel, puisque le sucre, la betterave par exemple, ou le sucre de canne n'existait pas à l'époque.
Florence Marvejol a également écrit « L'Égypte ancienne pour les nuls ». Ne souriez pas, ça se fait encore hein, de laisser quelques provisions de bouche pour le défunt. Moi, j'ai vu en Russie des gens qui mettaient un petit verre de vodka sur la tombe de leur proche. Ils savaient évidemment bien que le mort n'allait pas boire la vodka, mais c'était peut-être pour l'énergie qu'elle apporte. Puis il y avait toujours quelqu'un dans le cimetière qui passait par là et zoup qui se sifflait le petit verre.
Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir pourquoi les yeux ne changent pas de taille quand on est grand. Merci, au revoir.
Bonsoir Charlie. Pourquoi est-ce que les yeux ne changent pas de taille quand on est grand, professeur Jean-Claude H. Vous êtes neuro-ophtalmologiste.
Oui, quand on est, les yeux de bébé font à peu près 17 mm de long. Alors que votre œil, à vous, chère madame,
plus gros,
fait 24 mm de long. Bon, c'est pas très gros un œil. Est-ce que vous savez combien ça pèse un œil? Ça pèse 7 grammes.
C'est tout pas petit. Beaucoup.
Non. Alors, l'œil de bébé fait 17 mm, mais il va grandir très très vite et il fera déjà 21 mm à 2 ans. Puis il va grandir plus lentement et il fera 23 mm à 4 ans. Et dès 10-11 ans, il fera les 24 mm et à ce moment-là, l'œil a atteint sa taille adulte. Donc, c'est essentiellement dans les deux premières années de la vie que l'œil va grandir. Et après, Charlie a raison, l'œil, il a presque sa taille adulte. Et il grandit très peu, et à 10 ans, c'est fini, il ne grandit plus.
Professeur Jean-Claude H., est-ce qu'un homme qui mesure 1m95 et une femme qui mesure 1m42 ont des yeux de la même taille?
Alors, oui, les yeux humains ont à peu près tous la même taille, sauf les myopes qui ont un œil plus long.
Comme un ballon de rugby?
Un petit peu comme un ballon de rugby. Et les femmes ont un œil qui fait environ un tiers de millimètre. Vous voyez, c'est négligeable de moins en moyenne que les hommes.
Est-ce que le fait que l'œil grandit, ça le rend plus performant?
Non, c'est le fait que la rétine se mature. Mais bon, regarde pas avec ses yeux. Par exemple, 10/10, c'est pas mieux qu'un dixième.
Ah ouais?
10/10, c'est les aigus, c'est les fins détails.
Ah.
Et 1/10, c'est les médiums. Et les portes, c'est les graves. Eh bien, vous pouvez voir les aigus et ne pas voir les médiums, ne pas voir les graves. Comme l'audition. Mais ça nous a été démontré après des travaux sur le chat et sur le singe qui ont valu le prix Nobel à Hubel et Wiesel. L'œil, ça fonctionne exactement comme l'oreille. Ça regarde des aigus, des médiums et des graves. Sauf que la vision, c'est un peu plus compliqué que l'audition.
Le professeur Jean-Claude H., professeur en neuro-ophtalmologiste, est mort il y a 2 ans, mais nous n'avions jamais diffusé cette réponse.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes. Immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années. C'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
C'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Chapeau pour la route à pied, nuet et nuetée, diva aux pieds nus restera.
Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà,
tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà,
après tant d'années.
Et voilà,
une de perdue, c'est ça?
Et voilà,
je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà,
Mahé, c'était Ave Césaria, chanson en hommage à la chanteuse capverdienne Césaria Évora.
Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 6 ans, je voudrais savoir s'il reste encore des bisons en Amérique du Nord. Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir et bravo pour cette question clairement posée. Brice Le Faux, docteur vétérinaire, directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Sa question à Pauline porte sur l'Amérique du Nord.
Oui. Dans les grandes plaines du Midwest de l'Amérique du Nord, avant l'arrivée de l'homme blanc, il y avait des millions de bisons. C'était une espèce qui migre pour aller de pâture en pâture, en fait là où l'herbe est la meilleure. Et c'est une espèce qui a bien failli disparaître. Donc la question de Pauline est assez judicieuse.
Dans les westerns, parfois ils filment l'arrivée des bisons, la terre tremble.
Exactement, mais c'est vraiment ça, hein, c'est assez impressionnant. C'est des grandes troupes hein, qui arrivent en masse. Aujourd'hui, il y a dans la plupart des parcs nationaux notamment, c'est là où ils sont principalement, il y a près d'un demi-million de bisons. Donc heureusement, ils sont encore présents et ils sont de plus en plus présents. C'est une population qui va bien, qui augmente d'ailleurs, alors qu'en 1884, on en dénombrait moins de 500. Ce qui s'est passé, c'est que avec l'industrialisation, il y a eu le chemin de fer. Donc l'homme blanc qui est arrivé était en conflit avec les Indiens. Il a donné, entre guillemets, ou il a laissé plutôt des terres aux Indiens natifs. Et il a construit des chemins de fer pour relier la côte ouest de la côte est. Ces chemins de fer étaient ralentis à chaque fois par la présence des bisons, notamment au moment de la migration. Donc il y a des grands épisodes assez tristes hein, où on voit des plaines remplies de corps de bisons. C'est-à-dire que le bison qui était un animal totem hein, pour les Indiens d'Amérique, c'est un animal qui servait énormément pour la nourriture, pour l'outillage, pour se vêtir, pour faire les tentes.
Tout est bon dans le bison.
Tout est bon dans le bison. Et donc c'était quelque chose qui frappait aussi psychologiquement les Indiens que de massacrer comme ça un animal qui était la ressource principale des tribus d'Amérique du Nord.
Donc ils se sont servis des bisons pour les affaiblir.
Politiquement, je pense qu'il y avait un intérêt comme ça, mais le premier intérêt, c'était d'abord assez basique, c'est-à-dire on engageait les gens pour tuer un maximum de bisons, et ils étaient payés pour ça, ils étaient contents de tuer des bisons, et des intérêts surtout financiers pour permettre en fait à l'industrialisation de se poursuivre. C'était un exemple du progrès qui allait à l'encontre de la diversité animale.
Ça commençait.
Oui, et c'est un bel exemple. Parce que Pauline a raison de poser la question. Et je suis heureux de lui dire qu'aujourd'hui, il y en a près d'un demi-million, alors qu'il n'y en avait que 500. C'est donc un exemple qu'on peut vivre avec des bisons, tout en continuant le progrès. C'est un bel exemple où on peut cohabiter tous ensemble. Et même s'ils sont présents majoritairement dans les parcs nationaux, les systèmes de protection qui ont été mis en place ont vraiment permis aux bisons de entre guillemets, renaître. Donc on a corrigé un petit peu ce qu'on a fait de vraiment pas bien il y a deux siècles passés.
Docteur Brice Lefond, est-ce qu'on en a en Europe des bisons ?
Oui, il y a une autre espèce de bison qu'on appelle le bison européen.
Ah bon ?
Eh oui, qui est dans les grandes plaines ukrainiennes et polonaises. Il reste une petite population qui est stable et qui augmente un petit peu. Les parcs zoologiques européens, justement, contribuent à la préservation aussi de certaines lignées génétiques de cette espèce qui est différente du bison américain.
Il est plus petit ?
Il est plus petit, effectivement. Et surtout, il vit dans des troupes beaucoup moins importantes.
Restons en Amérique avec le roman culte de Betty Smith sorti en 1943, Le Lys de Brooklyn, adapté au cinéma par Elia Kazan. Ce livre est le journal d'une petite fille, Francie, qui vit avec son jeune frère, son Irlandais de père, chanteur, serveur, alcoolique, mais aimant et charmant. Sa mère, ravissante, tombée enceinte trop tôt, aimante aussi, intelligente, positive, énergique, qui nettoie les escaliers des immeubles du quartier pour gagner de quoi les faire vivoter. Le père se demande pourquoi ils sont venus crever de faim en Amérique. S'il avait su, il serait resté chez eux, avec ses proches, leurs coutumes et leurs paysages. La mère ne partage pas cet avis, car en Amérique, l'école est gratuite. Elle pense que le salut passe par la lecture. Tous les soirs, quel que soit son épuisement, elle lit à ses enfants une page de la Bible et une page de Shakespeare, les deux seuls livres qu'ils possèdent. La petite Francie mène la vie de débrouille des gosses du quartier, mais elle a un don, celui de l'écriture, celui du récit, d'où son journal. Elle y raconte les déboires et les joies, les blagues, les injustices qu'elle vit avec sa famille. On rit, on pleure dans ce Lys de Brooklyn réédité chez 10-18. On vit surtout la vie de ce quartier de New York en plein changement au début du XXe siècle. Ces petits bateaux sont à podcaster par franceinter.fr. À bord, il y avait Liane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Duvoucou, Stéphane Combe, Ludovic Asselot et Noël Bréham. Après le flash de 20h, vous retrouverez Jérôme Garcin et son équipage. Ils évoqueront les livres dans Le Masque et la Plume. Et puis demain, lundi matin, chez Augustin Trapenard à 9h, eh bien, vous pourrez entendre Benjamin Biolay.